Merci, Joanne. Bon matin. Moi, j'ai été très touché par la louange ce matin, particulièrement un chant qui nous dit « Alors mon cœur redit nuit et jour que tu es bon, ô Dieu d'amour. » Ça fait 45 ans que je me suis remonté dans ce chant. D'un coup, j'étais au salon avec ma grand-maman, mon grand-papa, mes parents, mes cousins, cousines. On chantait ce chant. C'est quelque chose. Puis je dis « Waouh ». Qu'est-ce qu'en 45 ans, le Dieu d'amour était là? Moi, pas toujours, mais Dieu était là. Alors, j'aimerais encourager les grands-parents, des fois, quand ils prient, quand ils chantent avec leurs petits-enfants, ça marque. Ça marque. Donc, ne vous gênez pas de prier, de chanter, d'élever le nom de Jésus avec vos enfants, petits-enfants, parce que moi, je vois ma grand-maman avec son vieil organium dans le salon, en train de casser les doigts, selon moi, mais qui chantait ce chant de tout son cœur. Puis mon papa était bien malade à ce moment-là, puis ça faisait du bien d'avoir pouvoir chanter quelque chose. Puis ce matin, j'étais ému de dire « Waouh, mais c'est vrai, j'ai eu la chance de connaître ce chant, puis Dieu est plein d'amour, vraiment. » Je suis venu avec deux questions, c'est des questions qui me travaillent, puis peut-être vous aussi, parce que si Jésus est ressuscité, qu'est-ce que ça change concrètement? Avant, après Jésus-Christ, on est dans l'après, donc on parle d'un Jésus qui est ressuscité. Mais qu'est-ce que ça change? Moi, je pense que si vous êtes là, c'est pas seulement parce que vous êtes curieux, parce que vous trouvez sympa d'être venu ici. Je pense qu'il y a aussi quelque chose, vous avez goûté au salut de Jésus, vous avez goûté à son pardon. Vous êtes en train de découvrir la bonne nouvelle de Jésus. Puis vous accueillez, comme moi, petit à petit, sa présence rassurante dans nos journées. Jésus ressuscité, c'est ça, c'est lui laisser de la place. Donc, est-ce qu'il peut faire quelque chose? Je crois. Ma paix peut-il vraiment transformer nos vies? Parce qu'avant Jésus, Dieu faisait son apparition de temps en temps. Après Jésus, j'ai envie de dire, c'est le ciel qui vient vraiment à la rencontre de la terre, nos cœurs. Puis le royaume de Dieu gagne du terrain chaque jour. Et j'espère aussi dans mon vie. Hier soir, j'ai eu la chance d'être invité à un anniversaire ici, dans cette salle, les 50 ans de mon ami Alexandre. Je connaissais Alexandre, sa femme Julie, qui était la responsable, leur fille, une autre personne. Il y avait 180 personnes ici. C'était extraordinaire, une belle fête. Et tous des directeurs, des chefs d'entreprise dans la Naudière qui se rencontraient. Puis j'ai dit, pourquoi je suis invité là? Puis Julie m'a dit, mais tu connais la salle, puis je veux que tu sois là. Puis c'était beau parce qu'à un moment donné, il y a un des grands patrons de la région qui arrive vers moi. Mais Laurent, tu sais, j'ai tout réussi dans ma vie. J'ai une super femme, j'ai des enfants, 4 enfants, ça va vraiment bien. Par contre, ici, c'est vide. Il se passe quoi dans cette salle? J'ai dit, bienvenue dans l'église. Pardon? Non, c'est le cerf-blanc, une église. Une église, ici? Puis il cherchait une croix, il cherchait quelque chose. Non, c'est discret. C'est Jésus veut vivre. Il m'a dit, mais je veux te voir, je veux boire un café avec toi, parce que j'ai des grandes questions. J'ai perdu mon père, j'ai perdu ma mère, puis je me dis, la vie, il y a peut-être autre chose. Peut-être avec toi, je peux discuter. Ça a été avec plusieurs personnes, j'ai eu ce genre de discussion hier soir autour des TAM, c'était extraordinaire, donc merci à toute l'équipe qui travaille fort. Michel, il a fini à 4h30 ce matin de tout ranger. Vous êtes assis, tout est beau. La salle hier soir était magnifique pour la fête, mais il fallait tout ranger après. On est là, assis, parce qu'il y a des gens qui ont travaillé, il y a des gens qui prient pour les réceptions, il y a des fruits qui vont se porter. Donc vraiment, merci à l'équipe qui travaille fort pour cette salle, et merci à vous tous qui donnez des coups de main. Ça fait quelque chose. En tout cas, hier soir, plusieurs m'ont dit, mais dans cette salle, il y a quelque chose ici. Alors oui, c'est la présence de Dieu. Alors vos prières, quand vous priez pour les samedis, qu'il y a des réceptions, vraiment demandez la bénédiction de Dieu, parce que Dieu veut toucher les cœurs, vraiment. Donc, après Jésus-Christ, il y a 18 mois, j'ai eu le cadeau, le privilège de me rendre en Égypte. On était plusieurs chrétiens de différentes églises, on réfléchissait pour Jésus 2033. Comment est-ce qu'on va fêter au Moyen-Orient les 2000 ans de la résurrection de Jésus? Puis c'était une bonne question, qu'on a pris du temps dans la prière, dans le partage. Mais j'ai eu la chance aussi, 2 jours après cette séminaire, de partir 2 jours dans la ville du Caire pour me promener comme touriste. Mais si vous êtes comme moi, si vous trouvez que les congestions à Montréal sont pénibles, je vous dirais de rouler au Caire, c'est horrible. Les voitures se touchent sans arrêt. ça coince, ça klaxonne, ça respecte pas les uns les autres. C'est... Je lui dis, comment est-ce qu'il apprend à faire son permis conducteur? Mais t'es là-dedans, je suis tendu. J'ai le chauffeur de taxi qui est à côté de moi, lui, il rigole. Mais moi, je vois tout ce trafic. Ça n'arrête pas, ça n'arrête pas. Je commence à respirer mal. Pourtant, je suis quelqu'un, me semble, assez courageux. Mais là, être copilote, j'aimais pas trop ça. Et tout d'un coup, sans crier, il y a un piéton qui se jette devant nous. J'ai commencé à crier. Puis t'as le chauffeur du taxi qui rigole. Inch'Allah. Comment ça, Inch'Allah? Ben ouais. Ma religion musulmane dit Inch'Allah. Mais que tu veux dire quoi? Ben, si je l'avais tué, c'était Inch'Allah, j'y pouvais rien. Dieu l'a décidé, c'était son jour. Puis moi, je lui dis, ben, c'est, il me semble que Jésus, moi, il est différent qu'Inch'Allah. Hein. Quand je prie, ben, ok, monsieur a fait une bêtise de se pas regarder, mais moi, quand je prie, les choses peuvent changer. Ah bon? Ok. On continue notre route, puis il me dit, écoute, je t'emmène voir les pyramides. Les merveilles du monde. Donc, j'arrive devant ces pyramides. Oh, c'est grand. C'est énorme. C'est majestueux. C'est, je suis là. Moi, je suis un passionné de l'histoire. Je suis un passionné de voir comment est-ce que les hommes créent quelque chose d'extraordinaire qui dure. Mais j'ai des questions. Comment est-ce que ces hommes, à l'époque, ont-ils pu transporter ces immenses roches qu'a sculptées pour faire une pyramide? Ils n'avaient pas d'ordinateur 3D, d'architecte pour créer ça? Mais ça tient, ça résiste. C'est fou. Mais le chauffeur de taxi, là, il me regarde, il dit, Laurent, c'est bizarre, mais j'ai quelque chose en moi qui monte, je le dis. Tu vois que c'est beau, mais au fond de toi, t'es un touriste différent. T'es pas en train d'applaudir, de waouh, ça te nourrit pas ce que tu vois. Je lui dis, mais t'as raison. Il y a quelque chose que je regarde, puis je comprends pas, mais je ressens une tristesse. Alors on discute, puis je suis désolé, puis je dis, mais lui, il est tellement fier de me montrer ses pyramides, son chef-d'œuvre de son pays, mais moi, je suis là un peu triste. Après, d'un coup, il me dit, mais Laurent, j'ai compris. Qu'est-ce que tu as compris? Tu sais, les pyramides, en fait, c'est un tombeau de notre grand roi d'Égypte. Toi, comme chrétien, tu n'es pas intéressé à un tombeau. Tu t'intéresses sûrement à la résurrection. Waouh, mais nous, les Égyptiens, on honore nos morts. Puis toi, comme chrétien, normalement, tu dis que la mort, c'est pas la fin. Il avait tout compris. Que Jésus nous donne une autre perspective, une nouvelle perspective de la vie. Que la résurrection, c'est un cadeau à partager. Puis il me dit, attends, on va pas rester devant ce tombeau. Pour toi, qui est peut-être un tombeau, pas pour moi. Je vais t'emmener dans le quartier des chiffonniers. Un endroit sale, puant, malpropre. C'est là que les chrétiens trient les poubelles de toute la ville du Caire. Mais ce qui est extraordinaire dans ce quartier, il y a une montagne. Qu'est-ce qu'ils ont fait avec cette montagne? Ils ont creusé dans la roche. Ils ont creusé et creusé. Ils ont créé une église. Pardon. Et puis tout au fond de cette église, sur le mur, écrit en très grand, Jésus est ressuscité. Alors ça change de perspective. Puis là, il était là, ce guide me dit, mais Laurent, ben, c'est vrai que je me pose des questions. Mais quand je viens ici, quand je vois tous les chrétiens de ma ville qui sont les responsables de trier les poubelles, je dis, waouh, heureusement qu'ils sont là, ils aiment notre ville. Mais sans eux, le Caire serait horrible. Mais quand je viens avec des touristes comme toi, quand je m'assieds dans cette église puis je regarde Jésus ressuscité, ça vient me chercher. Parce qu'il y a une bonne nouvelle. Puis je voudrais vous dire ce matin, mon titre de mon message, c'est « L'avenir ne ressemblera pas au passé ». Parce que Jésus veut faire toute la différence. Jésus fait toute la différence. Et il le fait encore dans mon vie. Alors Jésus ressuscité, peut-il faire quelque chose? J'ai posé cette question à plusieurs hier soir et dans les contacts que j'ai. J'ai trois sortes de réponses. Oui, bien sûr, il peut faire quelque chose. Jésus, non. Oui, mais tu comprends, Laurent, tout ce que je vis, il n'est peut-être pas capable de venir jusqu'à moi ou je ne suis peut-être pas prêt de lui laisser la place parce que qu'est-ce que ça change franchement? Alors ce matin, j'aimerais vous encourager, au travers de mes paroles, à oser choisir de mettre votre confiance en Dieu. Par conséquent, je dirais en sous-titre, n'acceptez pas votre situation telle qu'elle est aujourd'hui. Dieu peut faire quelque chose de plus. Puis pas seulement ce que vous pensez, parce que Dieu pense plus loin que vous. Des fois, on prie pour telle chose, on dit, mais pourquoi tu réponds pas? Pourquoi tu réponds pas? Mais Jésus, mais j'ai un autre plan. Donc ce matin, je vais continuer ma réflexion sur les femmes qui sont citées dans la généalogie de Jésus. Puis le mois prochain, ben, je vous parlerai d'un homme. Oh, merci beaucoup. Merci. C'est peut-être les restes de la fête de hier soir, pourtant il me semble que j'étais raisonnable. Bon, merci. Donc il y a un mois, on a vu comment Dieu a fait justice à Tamar. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de Rahab. L'avenir ne ressemblera pas au passé. Rahab a quitté avec courage son travail comme prostituée. On va voir comment est-ce que Dieu l'a sortie là-dedans. Rahab, ce qui est extraordinaire, on va lire toute son histoire ce matin, mais elle fait partie des héros de la Bible. Elle a refusé de se laisser contaminer par la peur, la terreur qui régnait dans sa ville. Tous les gens autour d'elle commencent à fermer leurs portes. Rahab a choisi d'ouvrir la porte, pris le risque. Au lieu d'écouter la voix de la majorité qui disait « de toute façon, on n'y arrivera pas, on est fini, il faut se protéger », au lieu de suivre la voie qui semblait être raisonnable, « faites des provisions, barricadez-vous, enfermez-vous », elle a osé, Rahab, faire quelque chose de différent. Elle a cru en Dieu. Et son geste l'a non seulement sauvé, mais toute sa famille aussi. Donc, qui est donc Rahab? J'ai été ému en lisant cette histoire, puis on va lire l'histoire presque complète de Rahab. Donc, si jamais ça se trouve dans le livre, dans la Bible, dans Josué, au chapitre 2. Le texte va apparaître. Puis j'ai choisi de vous le lire en complet. Josué, fils de Noun, donc Josué, juste, c'était le chef de l'armée. Les Israélites ont passé 40 ans de désert, ils arrivent au pays de Canaan et ils se retrouvent face à Jéricho, une ville fortifiée de l'époque. Josué, fils de Noun, fit partir secrètement de Sittim deux espions leur disant « Allez explorer le pays, en particulier Jéricho ». Ils partirent et arrivèrent dans la maison d'une prostituée du nom de Rahab et ils y couchèrent. On dit au roi de Jéricho, il y a des Israélites qui sont arrivés ici cette nuit pour explorer le pays. Alors le roi de Jéricho envoya dire à Rahab, fais sortir les hommes qui sont venus chez toi, qui sont entrés dans ta maison. En effet, c'est pour explorer tout le pays qu'ils sont venus. Jusque-là, de s'appeler Rahab, la prostituée, c'est pas le genre de titre qu'on aime bien entendre, hein. Si on s'appellerait comme ça, « Salut Laurent, le grand voleur », là, elle est détruite comme ça. Il y a un roi qui... Je parle un petit peu de ce roi, mais là, il entend qu'il y a quelque chose. « Ah, Rahab, c'est quelque chose. » La femme prit les deux hommes et les cacha. Puis elle dit, « C'est vrai que des hommes sont arrivés chez moi, je ne savais pas d'où ils étaient. » Et au moment où l'on allait fermer la porte, la ville avait une seule porte à Jéricho. Tout le monde entrait et sortait par la même porte. Donc au moment où on en avait fermé la porte, à la tombée de la nuit, ils sont sortis. J'ignore où ils sont allés. Dépêchez-vous de les poursuivre et vous les rattraperez. Mais en fait, Rahab avait fait monter les espions sur le toit. Elle les avait cachés sous des tiges de lin qu'elle y avait arrangées. Les hommes du roi, donc ces hommes, les poursuivirent par le chemin qui mène au gré du Jourdain et l'on ferma la porte après leur départ. Avant que les espions se couchent, Rahab monta vers eux sur le toit et leur dit « Je le sais, l'Éternel vous a donné ce pays. La terreur que vous inspirez s'est emparée de nous et tous les habitants du pays tremblent devant vous. En effet, nous avons appris comment à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a asséché devant vous la mer des roseaux. Comment vous avez traité les deux rois des Amoréens de l'autre côté du Jourdain, Sihon et Og, que vous avez exterminés. Et en apprenant, nous avons perdu courage. Notre esprit est abattu devant vous, car c'est l'Éternel votre Dieu qui est Dieu en haut dans le ciel et en bas sur la terre. » Quelle déclaration! J'ai personne qui est venu en face de moi un jour. Tu sais, Laurent, j'ai peur de toi parce que le Dieu que tu aimes, il sait tout. Il peut tout. Mais là, Rahab a ce courage de dire ça. Elle dit, waouh, je ne vous connais pas, mais ce que je sais, ce qu'on raconte de vous, c'est vrai. Nous, on a peur, mais il y a quelque chose en vous qui est différent. Maintenant, je vous en prie, jurez-moi par l'Éternel que vous aurez pour ma famille la même bonté que moi pour vous. Donnez-moi l'assurance que vous laisserez vivre mon père, ma mère, mes frères, mes sœurs et tous les leurs, que vous nous sauverez de la mort. Ces hommes lui répondirent, nous le jurons sur notre propre vie si vous ne divulguez pas ce qui nous concerne et que l'Éternel nous donnera le pays. Nous agirons envers toi avec bonté et fidélité. Waouh. Elle les fit descendre avec une corde par la fenêtre, car la maison qu'elle habitait était sur la muraille de la ville. Elle leur dit, allez du côté de la montagne, sinon vos poursuivants risqueraient de vous rencontrer. Cachez-vous là pendant 3 jours, jusqu'à ce qu'ils soient rentrés. Après cela, vous poursuivrez votre chemin. Ces hommes lui dirent, voici de quelle manière nous nous acquitterons du serment que tu nous as fait faire. À notre entrée dans le pays, attache ce cordon de fil rouge à la fenêtre par laquelle tu nous fais descendre et rassemble avec toi dans la maison ton père, ta mère, tes frères et toute ta famille. Si l'un d'eux passe la porte de ta maison pour aller dehors, son sang retombera sur sa tête et nous en serons innocents. En revanche, si l'on porte la main contre l'un de ceux qui seront avec toi dans la maison, quel qu'il soit, son sang retombera sur notre tête. Si par ailleurs tu divulgues ce qui nous concerne, nous serons quittes du serment que tu nous as fait faire. Elle répondit, qu'il en soit comme vous l'avez dit. Elle prit congé d'eux et ils s'en allèrent. Puis elle attacha le cordon rouge à la fenêtre. Ils partirent et arrivèrent à la montagne où ils restèrent 3 jours, jusqu'à ce que tous ceux qui les poursuivaient soient rentrés. Ceux qui les poursuivaient les cherchèrent dans toute la région, mais sans les trouver. Les deux hommes redescendirent la montagne, passèrent le Jourdain. Ils vinrent vers Josué, fils de Noun, et lui racontèrent tout ce qui leur était arrivé. Ça, c'est le chapitre 2 de Josué, mise en scène. Jéricho tremble, 2 espions arrivent, rencontrent une prostituée. Il y a un arrangement entre eux, il y a une promesse qui est dite, et les 2 espions retournent vers Josué. 5 chapitres plus tard, on arrive au Josué 6, c'est le jour de la bataille, c'est Jéricho, vous savez qu'ils ont fait le tour de la ville, qu'ils ont prié quelque chose, puis voilà ce qui s'est passé. Jéricho était fermé, barricadé devant les Israélites. Personne n'en sortait, personne n'y entrait. Je saute au verset 16. Josué dit au peuple, « Poussez des cris, car l'Éternel vous a livré la ville. La ville sera vouée à l'Éternel, elle et tout ce qui s'y trouve. Mais on laissera la vie à Rahab, la prostituée, et à tous ceux qui seront avec elle dans sa maison, parce qu'elle a caché les messagers que nous avions envoyés. » Le peuple poussa des cris, et les prêtres sonnèrent de la trompette. Lorsque le peuple entendit le son de la trompette, il poussa de grands cris et la muraille s'écroula. Le peuple monta dans la ville, chacun devant soi, et ils s'emparèrent de la ville. Le peuple poussa des cris. C'est peut-être ce qu'on fait le dimanche matin. La louange, c'est puissant. Quand on est ensemble, quand on déclare que Dieu est bon, comme on l'a chanté tout à l'heure, que Dieu, son amour est là, il se passe des murailles dans nos vies qui tombent. J'aimerais vous inviter à ne pas négliger la puissance de prier, de louer Dieu ensemble. Josué dit aux 2 hommes qui avaient exploré le pays, « Entrez dans la maison de la femme prostituée et faites en sortir cette femme et tous les siens, comme vous le lui avez juré. » Les jeunes espions entrèrent chez Rahab et en firent sortir Rahab, son père, sa mère, ses frères et tous les siens. Ils firent sortir tous les membres de sa famille et les installèrent en lieu sûr à l'extérieur du camp d'Israël. Quelle belle histoire, non ? Puis c'est extraordinaire parce que Rahab, après, est tombée amoureuse probablement d'un des espions ou d'un homme, puis elle fait partie de la généalogie de Jésus. Waouh! Mais ce que j'aime aussi dans Hébreux 11, ce chapitre des héros de la foi, ces personnes qui ont fait confiance en Dieu alors que tout prouvait le contraire, Rahab la prostituée a cru en Dieu, alors on ne l'a pas tuée avec les ennemis de Dieu, parce qu'elle avait bien accueilli les espions israélites. Qui est donc Rahab à part une prostituée? C'est intéressant de dire des commentaires. Certains disent, puis je trouve intéressant, Rahab était probablement à l'époque une épouse, une des épouses du roi de Jéricho. Mais le roi, à un moment donné, a un ras-le-bol de Rahab. Il dit, non, je te répudie, je vais prendre une autre femme. Et puis, il aurait voulu la mettre, Rahab, dans son harem où toutes les femmes du roi, bam, restez là. Je vous paye votre pension jusqu'à la fin de votre jour. Ça s'arrête là. Mais certains disent, puis je ne sais pas si c'est vrai, mais je trouve Rahab a dit, non, 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 non. Moi, je ne suis pas d'accord. Comment ça, tu n'es pas d'accord? Je te propose un marché. Donne-moi la maison qui est près de la muraille avec la fenêtre. Puis je vais être prostituée, mais pas seulement ça. Il y a des hommes qui vont venir chez moi, puis depuis la fenêtre, je vais pouvoir voir qui c'est qui entre, qui sort, et je te ferai un rapport au roi. Comme ça, tu sauras. Est-ce que c'est vrai? Ça, moi, je trouve intéressant, en tout cas. On ne sait pas. Ce n'est pas ça le plus important. En tout cas, les archéologues, quand ils ont retrouvé les ruines de Jéricho, ils ont vu que la muraille, elle mesurait plus de 10 mètres de haut, et 4 mètres de large. Donc c'est énorme pour une construction de 1450 avant Jésus-Christ environ. C'était normalement, cette muraille est protégée contre toute attaque. Rahab, dans son appartement, il y a une fenêtre. Elle voit tout ce qui se passe dans sa ville. Non seulement elle voit, mais elle peut écouter, je vais dire, radio-couloir. Elle écoute tous les potins. Elle écoute toutes les nouvelles locales. Elle sait ce qui se raconte dans sa ville. Elle voit les soldats se préparer pour la guerre. Puis elle entend au travers de la bouche des soldats tout ce que Dieu fait, a fait pour les Israélites. Elle apprend comment les Israélites ont remporté avec une très grande facilité la guerre contre les ennemis. Donc, autour d'elle, c'est la peur, c'est la panique, mais elle, ce qu'elle entend, il y a quelque chose qui va la rencontrer. Waouh! Il y a une possibilité peut-être d'en s'en sortir. Ce Dieu-là, est-ce que je peux le rencontrer? Est-ce que je peux le connaître? Qu'est-ce que je peux faire? Elle comprend en tout cas que son peuple semble accepter la défaite avant même d'entrer en combat. Impossible de gagner. Parmi ses voisins, ses compatriotes, comme je l'ai dit, ils tremblent. Ils sont dans la terreur. Elle a très vite compris, les prochains, c'est nous qui vont passer sous le rouleau compresseur d'Israélites. Elle comprend que Dieu a quelque chose pour les Israélites. Donc elle voit, elle entend, puis elle ne se laisse pas toucher par tout ce qu'elle voit. Ce qu'elle entend. Comment ça se fait? Puis moi, je me suis dit, mais peut-être depuis sa fenêtre, elle voit le camp des Israélites, qui n'est pas très loin, je crois environ une quinzaine de kilomètres. Ils ne sont pas très, très loin, mais elle voit autre chose. Elle voit le soir une colonne de feu, c'est Dieu qui rencontre, qui descend du ciel sur les Israélites. Elle dit, tiens, ils vont nous attaquer, mais ils vivent comme au plein jour. Même la nuit, ils sont éclairés, ils n'ont pas peur. La nuit, pour les Israélites, ne semble pas exister. Nous, on se cache, on se barricade, on a peur, on tremble, on essaie de faire des réserves, on essaie de se rassurer. Eux sont là, à une quinzaine de kilomètres. Ils attendent, on ne sait pas trop quoi, mais on les voit. Elle voit un peuple nombreux, confiant, qui vont avancer un jour, mais elle ne sait pas quand. Elle comprend très bien que les murs de Jéricho, que la mise en place de ces puissantes fortifications ne va pas suffire à les protéger. Elle ne sait pas encore si elle va s'en sortir, si elle pourra sauver sa famille. Mais ce que je trouve quand je lis Josué 2, elle est confiante malgré tout. Elle ne se laisse pas avoir par tout ce qui la contamine. Le roi, lui, voit aussi la colonne de feu. Mais lui, il se prépare au combat. Il essaie de rassurer. Puis il espère bien sûr que les rapports de Rahab vont lui donner une faille pour combattre l'ennemi, pour gagner la guerre. Puis un jour, Rahab regarde à nouveau par la fenêtre. Elle voit la délivrance arriver. Elle voit deux hommes. Ah, ça, ils sont pas de chez nous, ceux-là. Faut que je les fasse entrer. Alors, j'imagine que les deux espions entraient dans la maison d'une prostituée. Ouf, où est-ce qu'on arrive? Surprise. Puis je me suis posé une question, mais si j'étais un voisin de Rahab, qu'est-ce que j'aurais pensé en voyant ma voisine accueillir ces deux hommes chez elle? Pas quelque chose de beau, en tout cas. En tout cas, ce n'est pas sur Rahab que j'aurais parié pour sauver ma ville. Rahab, comme je l'ai dit, n'écoute pas Radio Couloir. Elle n'écoute pas tous les bruits qu'il y a autour d'elle, qui découragent, qui créent la division, la peur. Rahab, c'est une prostituée. Hein? Elle est peut-être prisonnière, elle est peut-être victime de tout ce qu'elle vit, mais en tout cas, elle fait l'objet de plaisirs d'hommes. Elle est dans la foi pour son avenir, elle espère, mais elle ne sait pas encore comment être délivrée de son passé. Ça, c'est un petit peu nous, avant, après Jésus-Christ. On espère, on ne sait pas. Mais quand Jésus vient nous rencontrer, il y a quelque chose qui s'installe de nouveau. Elle espère quitter son présent douloureux. Mais aussi, elle a la merci du roi. Donc, son avenir est incertain. Son présent est insécure. Le roi sans arrêt la charge. Dis-moi qui c'est qui est venu chez toi. Qu'est-ce que tu as appris? Alors, est-ce que les réponses vont plaire au roi? Elle est constamment dans la grande question. Puis Rahab, si on pense à elle, elle semble peut-être irrécupérable. Je ne suis pas sûr qu'elle doit vraiment aimer sa vie, son quotidien. Peut-être elle se dit, mais je suis née du mauvais côté, de la mauvaise famille. Mes choix, mon quotidien sont une conséquence de plein de petites choses, puis j'en suis là. Je dois dire quelque chose au roi, mais moi... Elle cherche une porte de sortie. Elle veut repartir à neuf. Alors quand elle choisit de faire confiance aux espions, c'est déjà un immense changement pour elle. Prostituer, faire confiance à des hommes, c'est pas gagné d'avance. J'imagine aussi que Rahab a dû crier plusieurs fois à Dieu. Et soudainement, la réponse est arrivée. C'est soudain de voir ces deux espions alors que personne n'attend un secours. Comme je l'ai dit, tout le monde a peur. Il y a quelque chose qui arrive soudainement. Et quand je priais pour vous, le soudainement, je me déclarais que ce sera en 2023 pour plusieurs d'entre vous. Il y a une année de soudainement que votre avenir ne va pas ressembler au passé, que Jésus veut transformer votre vie. Rahab est ouverte au changement. Elle choisit de cesser de s'attacher au passé. Elle veut regarder l'avenir, vers l'avant. Elle voit de nouvelles possibilités, de nouvelles relations. Elle voit dans sa tête des nouvelles aventures qui l'attendent. C'est quelqu'un qui a dit, « Tant que je serai en vie, j'irai de l'avant. Je ne m'arrêterai jamais. » Ça, c'est l'histoire de Rahab. Refuse son statu quo. Refuse de rester dans l'état qu'elle est. Non. Il y a quelque chose d'autre. Puis ça montre à quel point Dieu aime les blessés que nous sommes. Aime les cabossés de la vie, les désespérés de la vie. Personne ne peut parier sur eux, mais Dieu, je dirais, il mise sur les personnes détruites. C'est fou, le choix de Dieu. D'aller chercher quelqu'un que personne aime, rejette. Ça, c'est le cadeau de Dieu pour nous tous. Alors ce matin, qu'est-ce qui brûle en vous? Qu'est-ce qui vous passionne? Je le déclare, ne vous limitez pas de ce que Dieu veut faire au travers de vous. Le passé a peut-être sali votre réputation, mais ce n'est pas la destinée de Dieu de vous coincer, de vous isoler, de vous laisser à terre, de vous garder dans le moule. Dieu va faire de vous quelqu'un qu'on va se rappeler, comme on raconte l'histoire de Rahab. Dieu n'a pas honte de mettre Rahab de sa généalogie. Il ne regarde pas comme les hommes regardent. Ça, c'est la grâce, l'amour de Dieu, sa transformation. Vous dites, ouf, mais Laurent, si tu savais mon histoire, je ne la sais pas, mais Dieu la sait. Puis regarde Rahab, ce qu'il est en train de faire. Peu importe ce que les autres pensent, peu importe ce qu'on a dit de vous, peu importe de la boîte dans laquelle vous vous êtes mis ou qu'on a mis une étiquette sur vous, vous pouvez, nous pouvons faire partie du projet de Dieu. Nous pouvons ce matin encore une fois choisir de nous ouvrir à ce que Dieu veut faire, même si c'est improbable aux yeux des hommes. Même si votre histoire dit non. Laurent, ça se peut pas. Le choix de Rahab est puissant. Demander de l'aide à des hommes en tant que prostituée, c'est audacieux. Rahab sort du moule. En restant dans ses limites, probablement que Rahab serait morte. En acceptant le statu quo, la défaite, comme tous les autres, Rahab, on n'entendrait plus parler d'elle. On n'aurait jamais entendu parler de cette femme. Mais elle a choisi de faire confiance et de croire. Puis mieux encore, elle obéit. Elle attache une corde rouge le long de sa fenêtre. Et son obéissance va permettre à Dieu d'écrire une nouvelle histoire. Les habitants de Jéricho tremblent. Rahab décide de faire confiance à Dieu plutôt que d'avoir peur. Je dirais qu'elle veut pas, elle veut pas gaspiller son énergie en s'inquiétant. Elle se concentre sur ce que Dieu a dit à son sujet. Tu seras sauvé ainsi que ta famille si tu restes ici. Pas facile de dire, je vais rester là en attendant la délivrance. Je suis confiante. Je ne sais pas comment ça va se passer quand je vois mes murailles, quand je vois tout autour de moi. Comment est-ce que je vais pouvoir tenir? Puis quand on voit les images, ce qui se passe en Ukraine, imagine, tu es là-dedans, tu dois attendre, ça bataille, ça tombe, c'est horrible ce qui se passe. Puis Rahab dit, si tu sors avec ta famille, tu vas mourir. Mais si tu restes là, Dieu va intervenir. La confiance et la peur ont quelque chose en commun. Les deux exigent de croire en quelque chose qui n'est pas encore arrivé. Très souvent, nos pensées, notre peur, on anticipe pour demain. Mais la confiance, c'est la même chose. Qui c'est que je vais laisser gagner dans mes pensées? La peur ou la confiance? Ce sur quoi nous focalisons prendra racine dans nos vies. On le sait. Tôt ou tard. Alors en 2023, une année de soudainement, oui, j'y crois, mais aussi cultivons nos pensées basées sur la confiance, la foi, l'espoir, la victoire, et on verra des percées. Rahab, elle aurait pu se dire, mais je suis indigne de recevoir de l'aide. Regarde mon quotidien, regarde mon histoire. Et pourtant son péché ne l'a pas empêché de croire et de suivre Dieu. C'est quoi ce cordon rouge qui est suspendu à sa fenêtre? En Angleterre, jusqu'au XVIIIe siècle, on signalait les quartiers chauds par des lanternes rouges. On savait quel genre de femme ou d'homme était dans ces maisons à cause des lanternes rouges. Alors peut-être à Jéricho, les gens qui passaient devant la maison de Rahab la montraient du doigt. C'est ici Rahab, la prostituée, qui habite. Mais sur la croix, Jésus a versé son sang pour les pécheurs que nous sommes. Et le livre d'Ésaïe, qui a été écrit plusieurs siècles avant la croix, décrit ce qui arrive à ceux qui croient. L'Éternel dit, même si vos péchés sont de couleur cramoisie, c'est-à-dire un rouge vif, ils deviendront blancs comme la neige. C'est pas extraordinaire, ça? Ça, c'est la puissance de Jésus pour nous. Notre histoire, tout ce qu'on nous a salé, tout ce qu'on a cru, Jésus dit, sur la croix, mon sang, ma corde rouge, si tu la regardes, si tu acceptes, je peux te transformer. Nous n'avons pas à vivre avec ce rouge qui nous rappelle tout notre passé. Si on a dit des choses sur nous, en Jésus, on peut dire, je délie ces mensonges. Suspends ce cordon rouge à ta fenêtre, qu'il marque ta maison, qu'il te serve de signe, qu'il soit le symbole du moyen par lequel tu seras sauvé. Ça paraît ridicule. Un cordon rouge devant une muraille de 10 mètres de haut, 4 mètres de large. Qu'est-ce que ça peut faire? Je rappelle que les Israélites, ils ont été sauvés en Égypte de l'ange destructeur parce qu'ils avaient mis du sang d'agneau sur leurs portes. Je ne dis pas que ce soir, vous allez commencer à faire boucherie, mettre du sang sur vos portes. Mais c'est une invitation. En tout cas, moi, je sais que je le fais chaque matin. Je place chacun de ma famille sous le sang de Jésus. La protection. Je dis, Seigneur, pâtis, quand elle va au travail, à l'hôpital, accompagner les gens en fin de vie ou leur situation difficile, je la place sous ton sang. Est-ce que c'est la prière magique? Non. Mais je sais que le sang de Jésus va protéger, va donner une autorité, une confiance. Puis c'est une confiance que j'ai en Dieu pour Patty, pour ma femme, pour chacun de mes enfants. Ce cordon rouge, c'est l'invitation à dire, ben Jésus, j'ai besoin de ton sang. Le sang de Jésus veut nous donner un avenir qui ne ressemblera pas à notre passé. Parce que Jésus nous offre constamment une seconde chance. Nos actions du passé, c'est pas ça qui va nous dicter aujourd'hui et demain. Jésus est venu pour les cœurs brisés, les corps déchirés, pour nous sauver de toutes nos addictions, de toutes nos dépendances. Vous savez que je fais quelques heures dans la prison à Joliette, puis je rencontre des femmes dans le bureau où je peux, certaines me racontent leur histoire ou leur souffrance, leur douleur. Puis vendredi, je suis avec une détenue que j'appellerai Sylviane. Elle me dit, Laurent, où je te parle, je suis en prison, je suis enfermé dans des murs, mais il y a un plus grand mur que dans mon cœur. C'est ma relation conflictuelle avec ma mère. Elle ne me parle pas, je ne lui parle pas, je sens au fond de moi que c'est déchirant, je ne sais pas quoi faire, je ne suis vraiment pas libre. Sylviane, elle croit en Dieu. Elle découvre de plus en plus qui est Jésus. Puis je lui dis, écoute, Sylviane, on va faire une prière, les deux. Je vais te demander de rester silencieux. Puis on va demander à Dieu, mais ça a commencé où, cette colère contre ta maman? Ça a commencé quand, cette amertume envers ta maman? Ça a commencé quand tu as choisi de mettre ta maman de côté? Puis ça fait 30 secondes. On prie, me dit, Laurent, je vois. Je dis, où déjà? Moi qui n'étais pas prêt, mais elle était prête. Elle me dit, Laurent, j'ai 8 ans. Je suis avec ma petite sœur qui a 5 ans. On est toutes seules dans la maison. Papa, ça fait longtemps qu'il est parti. Maman travaille. Puis ce jour-là, c'est la fête des mamans. Puis maman est rarement avec nous. On doit toujours se débrouiller les deux. Mais elle nous a dit, maman, elle viendrait souper avec nous ce soir. Donc, ma petite sœur et moi, on dit, ben, on va lui faire une carte, c'est la fête des mamans. Puis on va nettoyer la maison. Puis elles s'appliquent, elles font des beaux dessins, elles me racontent tout ça, Sylviane, c'est magnifique. Puis le soir, maman rentre du travail, elle voit la maison, elle se fâche, elle se met en colère, parce que la maison est nettoyée comme un enfant de 8 ans. C'est pas propre, il y a de l'eau encore partout. Ça n'a pas le temps de sécher. Donc maman voit tout ce qui ne va pas, elle crie, elle se met en colère, elle prend les dessins, elle les déchire devant ses filles, elle prend Sylviane, elle l'enferme dans la salle de bain, elle la tape jusqu'à ce que le sang sorte de Sylviane. C'est horrible. Puis là, Sylviane dit, ben, ce jour-là, j'ai décidé que ma mère, je la mets de côté, je la tasse, j'irai chercher ailleurs l'amour et le soutien. Puis je lui dis, ok, Sylviane, est-ce que tu peux faire une deuxième prière? Jésus, il est où? Il est où dans cette situation? Est-ce qu'il est là ou est-ce qu'il est loin? Elle me regarde, mais il est loin. Je lui demande-lui. Laurent, Jésus, il est là. Ah ouais, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il pleure. Lui aussi, il crie de douleur, comme moi. J'ai dit, Sylviane, t'es prisonnière, hein, à cause de ton vœu. Je dis, oui, je dois faire quoi? Je dis, ben, je vais te demander quelque chose de très difficile. Veux-tu briser le lien que tu as fait? Veux-tu demander pardon à Dieu parce que tu as dit ça? C'était ta protection. Je comprends. Puis c'est correct. Ta maman t'a pas protégé, ta maman t'a pas donné l'amour qu'elle devait pour toutes sortes de raisons. Ce qu'elle a fait, c'est grave. Mais toi, t'as choisi une porte de sortie selon la tienne. Tu t'es fait un vœu et tu t'es enfermé. Veux-tu briser ce lien en demandant pardon à Dieu? Puis même peut-être, est-ce que tu arrives à pardonner à ta maman? Elle me regarde, Laurent, c'est gros ce que tu demandes. Je dis oui, mais je pense que c'est ça qui te... c'est ça. Alors elle est là, elle ose. Puis je l'entends, Dieu, pardon. Pardon pour ce vœu, parce que je ne sais pas ce que je voulais faire, mais j'ai choisi ça. Puis j'ai besoin de ma maman, mais je ne sais pas comment la trouver aujourd'hui, je ne sais pas quoi faire, mais pardon. Waouh, je pleure, je pense à Rahab, je pense à l'histoire de Sylviane. Je dis, Dieu, mais non, elle a fait quelque chose, mais toi, tu fais quoi? Montre-lui quelque chose, parce que ça ne suffira pas qu'elle t'entende crier. Elle a besoin de quelque chose de plus. Puis je lui demande, mais maintenant que tu as demandé pardon, redemande à Jésus, est-ce qu'il est toujours là? Puis qu'est-ce qu'il fait? Elle accepte. Puis d'un coup, je vois son visage, ses yeux qui s'ouvrent, Laurent. Vous allez entendre la suite. Elle dit, Laurent, je suis dans les bras de Jésus. Il me borde. Je suis en sécurité. Je ne suis plus toute seule. Je suis aimée. Je suis dans mon lit et je vois ma sœur dormir. Puis moi, je tremblais, je pleurais, je criais à l'intérieur. Mais là, tout d'un coup, je vois Jésus qui est avec moi. Il me dit, tu peux dormir. Je suis libre, qu'elle me dit. Mon avenir ne ressemblera pas à mon passé. C'est un petit peu ce qu'elle m'a dit. Je dis, waouh. T'as compris. On va travailler ces prochaines semaines sur retrouver cette relation avec sa maman. Mais ça, c'est Dieu, mes amis. Quand on a une histoire difficile, comme Rahab, comme Sylviane, comme nous tous, on peut aller vers Dieu, mais tout ce que j'ai entendu, tout ce qu'on m'a dit, c'est pas la fin de mon histoire. En conclusion, pour Dieu, rien n'est trop grand, trop confus, trop brisé pour être sauvé. Si nous avons l'impression qu'il est plus facile de rester bloqué dans nos vieilles habitudes, Dieu veut nous dire ce matin, permets-moi de restaurer chaque partie de ta vie et tu pourras être libre. Après Jésus-Christ, ce n'est pas seulement le salut, c'est aussi laisser intervenir dans nos nœuds, dans nos défis, dans notre quotidien, parce que Dieu veut restaurer. Jésus ressuscité, c'est la clé pour ouvrir des portes donnant sur de nouvelles possibilités de vie. Voilà ce que je voulais vous partager ce matin. Et avant de prendre la Sainte Cène, je vais prier, puis on va faire une leçon d'objet avec Michel pour nous introduire. Vous allez voir comment. Seigneur, je veux te dire merci pour l'histoire de Rahab, parce que tu as pris le temps d'écrire tout ce chapitre pour nous. Rahab, la prostituée, c'est bien plus que ça. Merci de nous montrer, de nous révéler que les étiquettes, les schémas, tout ce qui nous habite, c'est pas la fin. Tu vois plus grand. Et je te prie ce matin que tu nous aides à avoir cette foi, cette capacité de t'inviter, de te choisir dans notre quotidien, alors que tout explose. Ben, fais-nous la grâce de nous visiter, de transformer notre passé, de nous laisser aimer, rencontrer par toi. Puis si on a un pardon à proclamer, si on s'est enfermé dans des paroles, je te prie que tu te révèles comme tu l'as fait à Sylviane, comme tu l'as fait à Rahab, comme tu l'as fait à plusieurs d'entre nous. Ben continue de te révéler pour qu'on puisse marcher dans cette année 2023 avec des soudainements, avec des miracles, avec ton attention sur nous. Merci pour chacun ici. Je te prie vraiment que, alors qu'on va prendre la Sainte Cène, ben que ce soit un moment divin, un moment de relation, un moment de rencontre, où on te laisse entrer, on te laisse nous toucher. Au nom de Jésus. Amen.